C'est sûr, il met fin aussi à sa saison. Merci d'écouter RFI. Tout de suite, décryptage avec Véronique Rigolet.
Radio G. 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Et il n'y a pas que dehors que c'est le brouillard aux USA également, avec l'incertitude de l'élection américaine qui va avoir lieu ce soir. Et même si on est très loin de notre zone de couverture éditoriale, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences ici en Anjou? Et ben voilà une question à laquelle on ne va pas chercher à répondre ce soir, rien à voir. Par contre, le brouillard, si jamais vous êtes un petit peu frileux, vous pouvez vous procurer une écharpe couleur jaune et noire. Et ça, c'est en lien avec notre sujet de ce soir, puisque nous allons recevoir une partie, une délégation qui est venue ce soir dans le studio de Topette du défi 24 heures Angers Téléthon, auquel Radio G et l'émission sont partenaires. Bien évidemment, tout est un petit peu dans le long là aussi, hein. 24 heures pour faire le plus de kilomètres possible autour de l'étang Saint-Nicolas à Angers, bien évidemment minimum 1 kilomètre pour récolter des fonds pour soutenir l'AFM Téléthon, et chacun donne ce qu'il veut. On peut aussi faire des dons. C'est l'occasion de faire un gros focus sur les recherches contre les maladies rares, et puis qui cherchent aussi à améliorer la vie des malades et de leur famille. Petit chiffre quand même, en 2023, 39 204 km ont été parcourus. Objectif cette année, bien évidemment, c'est de tenter de battre le record. Et Nolwenn, pour ça, tu vas être avec deux invités, je crois.
Exactement, on sera avec Myriam De Kepper et Eric Bianciotto pour parler du défi 24 heures, mais aussi de l'AFM Téléthon et des maladies.
Dans quelques instants, dans Topette, bien évidemment, on aura aussi Charles bien silencieux ce soir, mais qui sera quand même avec nous tout à l'heure à 18h44. On aura également le podcast des indépendantes angevines avec Marie. Topette, c'est tous les soirs, 18h10, 19h, en podcast sur radio-g.fr et aussi sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, bien évidemment. Et c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et parce qu'il n'y a pas que les élections américaines dans les actualités, et encore moins en Anjou, on va justement s'intéresser à ce qui se passe en Anjou, et ça se passe avec toi ce soir, Émilien. Bonsoir Émilien.
Bonsoir Pierre Benoît.
Information qui est tombée ce matin, le groupe Michelin a annoncé la fermeture des sites de Cholet et de Vannes.
Réunis en comité social et économique ce matin vers 9h, la direction du géant français du pneu a annoncé la fermeture de ces deux usines qui emploient plus de 1254 salariés. Ces derniers seront licenciés d'ici 2026. Lors d'un entretien avec Ouest France, le président du groupe Florent Ménegeau observe depuis 2019 un marché qui s'est fortement dégradé sur divers aspects, le poussant ainsi à prendre cette décision. Pour Morgane Royer, délégué syndical et employé sur le site de Cholet, on nous parlait d'adaptation de l'effectif, pas de fermeture. Apprendre ça comme ça, c'est un mépris total envers les salariés, a-t-elle assuré. Michelin s'est cependant engagé à aider à la reconversion de ses employés sur une durée de 3 ans.
Et dans les coulisses de France 3 Pays de la Loire, la colère se fait sentir.
La moitié de la rédaction de France 3 Pays de la Loire s'est aujourd'hui mise en grève pour protester contre l'effacement de la marque et du logo de la chaîne. Depuis environ un mois, Radio France et France Télévisions ont lancé un projet d'info locale nommé Ici. Cette fusion des deux médias vise à être plus puissante et présente sur la scène télévisuelle régionale. Pour Delphine Ernotte-Kunchi, présidente de France Télévisions, l'intérêt d'Ici sera d'obtenir une couverture plus forte des événements locaux, notamment sur le sport et la culture. La journaliste angevine Laurence Couvrant, quant à elle, s'oppose à ce projet, voyant dans Ici un programme qui ne ferait que brouiller les esprits, ne raconterait pas grand-chose. De plus, les syndicats des journalistes s'alarment et craignent des licenciements à la clé de cette fusion.
Toujours en sport, cette fois-là, on rappelle la pression qui pèse sur les épaules de l'équipe de basket L'Étoile Angers.
En effet, l'équipe de basket de L'Étoile Angers affrontera ce mardi 5 novembre à 20h l'équipe de Poissy lors de la 10e journée de National 1. Cette fois-ci, l'équipe angevine n'aura pas le droit à l'erreur compte tenu de ses récentes défaites, comme celle de vendredi dernier face à Tours, où elle s'était inclinée 84 à 90, marquant ainsi son 6e échec en 7 rencontres.
Merci beaucoup, Emilien, pour ce point sur les actus locales. Est-ce que tu as ta petite écharpe du défi 24 heures en GTéléthon, toi?
Non, malheureusement, je ne l'ai pas encore. Elle est en commande. Elle va arriver dans pas longtemps, mais je compte la porter la prochaine fois.
Bon, ça va. Aujourd'hui, il a un col roulé, donc ça ne devrait pas poser de problème, mais on t'encourage à te la procurer. Justement, le défi 24 heures en GTéléthon, ça arrive à grands pas. Ça va être en fin de mois et on s'y intéresse ce soir puisque ce sont nos invités dans Topette.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Nolwenn, on t'a pas encore entendu.
Bonsoir.
Et c'est avec toi qu'on va s'intéresser justement, toi et tes invités, au sujet du défi 24 heures en GTéléthon édition 2024.
Exactement, et pour en parler ce soir, on est avec Myriam De Kepper. Vous êtes membre actif du défi 24 heures Téléthon et également la petite fille de la fondatrice de l'AFM, l'association qui organise le Téléthon. Bonsoir.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Et on est aussi avec Eric Bianciotto. Vous faites également partie du défi 24 heures Téléthon, pardon. Et vous êtes secrétaire adjoint de l'association. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Et avec vous deux, on va parler donc de cet événement sportif qui aura lieu à l'étang Saint-Nicolas. Ça sera le vendredi 29 novembre à 16h jusqu'au 30 novembre, le lendemain à 16h également. Donc particularité, cette année, ça ne va pas être le premier week-end de décembre. Et donc c'est un événement sportif qui a pour objectif de collecter des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies rares et notamment aussi améliorer la vie des malades et de leurs familles. Donc le défi 24 heures, c'est d'abord une course. Est-ce que Eric, vous pouvez nous rappeler le principe de cette course ?
Eh bien, il s'agit d'inciter les gens qui viennent en famille, entre amis ou avec leur club sportif, marcher ou courir pendant 24 heures d'horloge, chacun à son rythme et chacun fait ce qu'il peut, autour de l'étang Saint-Nicolas à Angers pour accumuler le plus de kilomètres. C'est un rassemblement qui est solidaire, sportif, familial et festif, qui fait qu'avec une bonne ambiance et l'envie de faire quelque chose tous ensemble, les gens sont incités à laisser un don, sans compter qu'il y a aussi des entreprises qui sponsorisent les kilomètres effectués par leurs employés.
Et comment ça fonctionne ? Est-ce que on donne par exemple 1 euro par kilomètre parcouru ? On fait un don global à la fin ? Comment ça se passe ?
Pas du tout, chacun donne ce qu'il veut, de la façon dont il veut. Il y aura des urnes sur place, il y a aussi la possibilité de faire un don en ligne sur le site du défi 24 heures. Et à la fin, nous récoltons tous les dons, nous les reversons à l'AFM Téléthon et nous y ajoutons le petit bénéfice qu'on fait sur la restauration et sur la tombola pour laquelle on vend des tickets à 2 euros.
Et Myriam, à qui est destinée cette course ? Elle est ouverte à tous ?
Ah oui, tout à fait. Hein. On incite les familles à venir. Il y a des gens qui viennent avec leurs chiens, en laisse, avec leurs poussettes. C'est vraiment très large. On ne veut pas restreindre l'accès, évidemment. Faut pouvoir faire le tour quand même à pied ou en courant. De nuit, on incite quand même les gens à prendre une frontale. Mais ça se fait très bien et on a des familles qui viennent tous les ans.
Et en plus de cette course, donc, il y a aussi beaucoup d'animations. Il y a un village où il y aura pas mal de choses. Quelles vont être les animations prévues ces deux jours ?
Alors en fait, à partir de 15h30, on a déjà un départ qui va être précédé d'un échauffement fitness pour tous ceux qui voudront s'échauffer. Et puis après, il y aura des concerts de toutes sortes pendant les 24 heures, des animations, alors des concerts de musique folk, de musique rock, de l'orgue de barbarie, de l'accordéon. On aura de la batucada brésilienne, c'est des percussions, ça va être très festif. On va avoir des randonnées thématiques aussi qui vont être organisées, des randonnées éco-responsables qui vont permettre de laisser le site encore plus propre qu'on l'aura laissé, des randonnées botaniques. Il y aura du body combat, du fitness. On pourra aussi se faire un petit peu soigner par une ostéo qui sera là sur place.
Et j'imagine que c'est un événement qui se prépare sur le long terme. Comment on s'organise toute l'année, Eric ?
Eh bien, on a des réunions assez régulièrement. La toute première, c'est dès la semaine qui suit l'événement, parce qu'il faut tout de suite qu'on se fasse un petit compte rendu, qu'on voit tout de suite ce qui a bien marché, ce qu'on peut améliorer avant qu'on oublie. Et puis après, au cours de l'année, on a à peu près une fois tous les 2 mois, puis tous les mois, puis tous les 15 jours, au fur et à mesure que la date se rapproche, des réunions pendant lesquelles on peut remettre en place nos contacts, vérifier que nos sponsors sont toujours bien là, que la logistique va être assurée, essayer de trouver de nouveaux partenaires. Par exemple, à la restauration, on cherche quelqu'un qui pourrait nous fournir cette année 30 kilos de filets de poulet à un prix le plus avantageux possible, parce qu'on fournit des sandwichs et on On finit par monter toute notre petite organisation comme ça au fil de l'eau, avec beaucoup d'échanges sur la messagerie de WhatsApp.
J'imagine que c'est un événement où les bénévoles sont très présents, il y en a besoin de beaucoup. Combien vous êtes le jour J? Est-ce qu'il y en a encore besoin?
Alors, on a en général autour de 130 bénévoles qui viennent pendant 24 heures. On n'en a jamais assez. Parce que chaque année, on a l'idée de faire de nouvelles animations, de proposer, peut-être cette année, on fera un vestiaire pour que les gens qui fassent le tour puissent déposer leur sac. Donc, ça signifie qu'il faudra des bénévoles supplémentaires pour pouvoir assurer le gardiennage. Et on fait toujours appel à ce qui nous fait plaisir, c'est que cette année, on a déjà, parmi nos inscrits, on a déjà 30 nouveaux bénévoles qu'on ne connaissait pas encore. Et chaque année, il y a comme ça un renouveau qui nous fait très, très plaisir.
Et si on remonte un petit peu dans le temps à la naissance de cet événement du défi 24 heures à Angers, d'où l'idée a émergé, Myriam?
Alors en fait, il y avait une association qui s'appelait l'association Entraide, qui avait déjà cette volonté de faire quelque chose, d'organiser une manifestation solidaire en 2002. Donc c'est là où ça a vraiment commencé. Et puis petit à petit, ça, cette manifestation a pris de l'ampleur, ça a grossi. Et ils ont eu le souhait de se structurer et de créer une association, le défi 24. Je sais plus, je crois que c'était en 2012. Et puis depuis, bon bah voilà, depuis l'association se structure de plus en plus, se professionnalise, et du coup on devient de plus en plus important dans le 49, référencé, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de monde aussi sur les défis. Les chiffres augmentent d'année en année, on bat nos records d'année en année, donc c'est chouette.
Et quel est votre objectif cette année de kilomètres à atteindre?
Bah, l'année dernière, on avait un objectif qui était de 40 000 kilomètres et on a fait 39 200. Donc là, on s'est remis 40 000 kilomètres en espérant bien les faire. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a eu une météo qui n'était pas du tout clémente. Et heureusement, le vendredi faisait très beau. Donc on a atteint le 80% de nos objectifs à partir du vendredi dans la nuit. Mais on n'y est pas arrivé. Et là, cette année, je pense que si la météo nous le permet, on pourra réussir à faire les 40 000.
Oui, on l'espère bien. On croise les doigts. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie l'année passée. J'ai eu la chance, moi, d'y aller le vendredi soir. Du coup, je suis passé entre les gouttes. Et évidemment, ça peut avoir une influence puisque rien n'est fixé dans le marbre encore en termes d'inscription. On espère que ça va bien se passer. On continue à en parler puisque du coup, on l'a évoqué. Hein, c'est au profit de l'association AFM Téléthon. On va pouvoir parler des maladies aussi, comment ça accompagne, où vont les dons. Vous restez avec nous, bien évidemment. Tout le monde reste avec nous. Toi-même, Emilien, tu restes avec nous. Auditeurs, auditrices aussi. On fait juste une pause musicale. On écoute Là où rien ne va de Baltic sur le 101.5 FM de Radio G.
Cet endroit-là égayer la bave au bout du menton. Tu voudras remonter le temps et réapprendre à dire non. Quand ces formules te feront l'effet que les défaites font aux belliqueuses empereurs, comme ce qui est fait, fait, ou c'est demain que tu meurs. À cet instant, à cet endroit-là, ce que je fais sera tout ce qui te restera. À cet instant, à cet endroit-là.
Là où rien ne va de Baltique sur le 101.5 FM, là où rien ne va, nous on va aller à l'étang Saint-Nicolas les 29 et 30 novembre, puisque nous allons participer, en tout cas moi je vais participer, puisqu'on est partenaire avec Radio G et Topette, du défi 24 heures Angers Téléthon dont on parle ce soir avec toi Nolwenn et tes invités.
Exactement, et donc pour parler, le défi 24 heures c'est organisé au profit de l'AFM Téléthon. Et donc le Téléthon, c'est organisé par l'AFM, c'est l'Association Française contre les Myopathies. C'est une association qui a été fondée par votre grand-mère, Myriam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sa création en 1958?
Alors en fait, effectivement, derrière l'AFM, il y a une famille angevine des années 50. Mes grands-parents, qui étaient un jeune couple, qui a décidé de fonder une famille. Ils ont eu 7 enfants. Et malheureusement, parmi les 7 enfants, il y en avait 4 qui étaient atteints de la myopathie de Duchenne, qui est une myopathie infantile qui ne laisse pas les enfants atteindre l'âge adulte, en fait, qui touche les muscles. Concrètement, quand on a une myopathie, les muscles, on n'a pas de fibres musculaires, on est comme une poupée de chiffon. Donc en fait, le sujet était très largement laissé de côté par les médecins, mais mes grands-parents étaient dans une errance médicale totale, et ma grand-mère, qui était très persévérante, qui a été pionnière, a essayé de sortir les autres familles qui étaient dans son cas de l'ombre, et a trouvé à force de recherche un service parisien tenu par le professeur Debré, qui était OK pour s'intéresser à ce sujet, myopathie. Enfin, on savait pas que c'était myopathie, il a fallu 13 ans pour trouver un diagnostic pour le premier des malades, en fait. Et du coup, suite à ça, ma grand-mère a lancé un appel national en disant « Voilà, moi j'ai trouvé un service de recherche qui s'intéresse à nos enfants, qui est là pour nous aider. » Et suite à cet appel, elle a eu un flot de retours. C'est là qu'elle a décidé de créer l'AFM Téléthon en 1958.
Et donc, c'est l'AFM Téléthon, c'est une association qui avait besoin de visibilité. Donc pour ça, le Téléthon, un événement à la base américain qui a été importé en France du coup en 1987, il a été organisé par l'AFM. Et au départ, personne semblait très convaincu, mais finalement ça a eu un immense succès, plus grand encore que celui des Américains. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel succès?
Alors en fait, eux-mêmes étaient surpris, parce que quand le successeur de ma grand-mère, Monsieur Barato, a été voir aux États-Unis ce qui se passait un petit peu, il y avait une émission similaire qui était animée par Jerry Lewis, et il est revenu en France. Il a été investir les locaux de la télévision française. C'était pas France 2, c'était Antenne 2 à l'époque. Et il a un petit peu forcé les portes avec sa famille, ses enfants. Il a dit voilà, nous c'est ça qu'on veut. Et du coup, c'était un petit peu un pari pour les studios de télévision. On dit ok, on vous suit, on va tenter. Et ils étaient tous à se demander s'ils allaient récolter des dons, etc. Et au final, ça a tellement bien fonctionné que sur le cadran qui affichait le chiffre, il manquait un écran, en fait. Enfin voilà, ça, ils ont explosé le record. Enfin, il n'y avait même pas de record, c'était une première. Et du coup, ça a donné une toute autre dimension à la recherche, qui maintenant, à partir de ce moment, détenait de gros moyens pour pouvoir avancer.
Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce succès, Eric? Est-ce que c'est la cause ou la forme du Téléthon?
Je crois qu'il y a les deux. La cause, parce que au départ, ça touchait surtout la myopathie de Duchenne qui touche les enfants. Donc c'est quelque chose auquel tout le monde est sensible. Et puis il y a aussi le fait que bien souvent on dit qu'on vit dans une société individualiste, mais quand se produit un événement solidaire, il y a toujours une adhésion très forte, et souvent beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait espérer. Alors, voilà, le slogan maintenant, c'est de dire « faites bouger vos muscles pour ceux qui ne peuvent pas ». Et ça paraît tellement simple en fait d'aller marcher, d'aller vendre des crêpes, d'aller participer et puis de laisser un don, quel qu'il soit, parce que chaque euro compte, que personne ne peut rester indifférent.
Et donc c'est un événement qui recueille près de 3% des dons annuels des Français, c'est une des plus grosses collectes populaires du monde. À quoi servent ces dons, Myriam ?
Alors en fait, la FM Téléthon a plusieurs objets. Le premier, c'est de soutenir la recherche pour trouver des diagnostics et des traitements pour les malades. Et c'est aussi d'accompagner les familles des aidants, accompagner le malade dans son quotidien ainsi que sa famille. Il y a une petite somme qui est reversée à la communication parce que quand on lève autant de fonds, il faut expliquer aux gens à quoi va servir tout cet argent. Donc voilà, ce sont les trois objets de la FM. Et puis... voilà quoi, c'est beaucoup d'argent.
Il y a aussi l'aide aux malades, pour l'aide aux familles des malades, pour leur permettre de souffler lorsqu'ils ont besoin de prendre un peu de repos. Et puis également, pourquoi pas les aider à acquérir soit un fauteuil roulant, soit une voiture qui leur permette de prendre leurs enfants en charge.
Ouais, l'aide au quotidien en fait, c'est ça.
Et est-ce que vous avez des chiffres concernant le nombre de personnes aidées? Combien de personnes ça représente?
Non, alors moi, j'ai pas les chiffres.
Pas de chiffres.
Non, mais ce que c'est sûr, c'est qu'ils comptent énormément sur cette aide. Sans cette aide, il y aurait pas de répit pour les familles. C'est essentiel.
Oui, le but, c'est de leur simplifier la vie au quotidien, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être l'aménagement d'une maison, hein. Ça peut être pour le passage d'un fauteuil roulant. Ça peut être des choses très pratico-pratiques, mais qui sont essentielles.
Et on se rend pas compte, hein, moi non plus, j'ai pas les chiffres, mais un fauteuil roulant, ça coûte extrêmement cher et tout n'est pas remboursé, je crois. Il faut des mutuelles, la sécurité sociale ne prend pas tout en charge. Donc les dons sont vraiment vitaux pour les personnes qui en bénéficient, hein, que ce soit les accompagnants ou les personnes malades.
Un fauteuil roulant peut parfois coûter plus cher qu'une voiture.
Et donc c'est absolument nécessaire, Nolwenn.
Oui, et du coup ça aide aussi à guérir, ça passe par la recherche et le traitement, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a 8 à 10 000 maladies rares. Donc la recherche elle s'étend sur plein de domaines différents, mais il y a quand même des victoires. Par exemple, ma grand-mère a fondé l'AFM, Association Française contre les Myopathies, parce que ses enfants avaient la myopathie de Duchenne. Il y a encore 2 ans, on n'avait pas de traitement. Aujourd'hui, on en est à des essais cliniques qui fonctionnent. Les chercheurs ont vraiment beaucoup de pain sur la planche, quoi. Ils ont énormément de maladies vers lesquelles il faut qu'ils se penchent. Il y a aussi, par exemple, la myotrophie spinale qui touche les très jeunes enfants. Avant, on détectait ça quasiment à leurs 2 ans. C'est une maladie infantile qui touche les tout petits. Ils atteignent généralement pas l'âge de 2 ans. Et là, aujourd'hui, c'est une victoire parce que les essais cliniques ont fonctionné et il y a un traitement qui est sur le marché. Le dépistage se fait même in utero quand le bébé n'est pas encore né. Et sinon, il y a le test de Guthrie qui permet au tout jeune bébé de se faire dépister de cette maladie. Et dès lors qu'ils sont diagnostiqués, ils ont accès à un traitement, une injection par thérapie génique. C'est pas compliqué, c'est un gène qu'on introduit, un gène sain qui va venir réparer les cellules malades. Et le processus s'inverse dans la maladie en fait.
Marché pour ceux qui ne peuvent plus. Le slogan exact, Eric, je te laisse leur donner, les muscles, tu l'as dit.
Faire
tout
bouger
à
ses muscles pour ceux qui ne peuvent plus.
Exactement. Et à Angers, ce sera les 29 et 30 novembre prochains de 16h à 16h. C'est facile. Donc, courez pas pendant 24 heures vous-même. Mais avec tout le monde, ensemble, on peut faire justement ces 40 000 kilomètres qui sont comme objectif. On rappelle quand même en 2023, 32 800 euros qui ont été récoltés au profit de la FM Téléthon. Pareil, on va exposer les kilomètres et puis on va essayer aussi d'exposer le nombre d'argent récolté, bien évidemment. On continue à en parler sur le 100.5 FM. On fait un petit détour par le podcast des indépendantes angevines avec Marie.
Les indépendantes angevines, la chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous partage une histoire qui va vous donner envie de faire vos valises. Celle d'Emilie, travel planner et fondatrice de Lily's Travels. Émilie est une jeune quadragénaire maman de 3 enfants. Après 17 ans à jongler avec des chiffres en tant qu'acheteuse, elle se dit « Et si je changeais de cap ?» Je vous le donne en 1000, elle se lance dans le monde du voyage. Et quoi de mieux que de lancer sa propre entreprise pour ça ? Son parcours professionnel était pourtant bien tracé. Après un BTS en gestion, elle commence sa carrière dans le groupe industriel IWF. Un grand groupe spécialisé dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles, de la logistique et de la chimie.
Rien à voir avec le voyage. Émilie gravira les échelons, passant d'assistante achat à acheteuse junior, puis à acheteuse projet. Mais au bout de 16 ans, elle se rend compte qu'elle a fait le tour. La flamme et la niaque ne sont plus là. Crise de la quarantaine ? Peut-être. Elle n'a pas forcément envie de changer d'entreprise. Ça ne ferait que repousser le problème. Non, ce qu'elle veut, c'est vivre un nouveau challenge. Être à son compte et surtout faire quelque chose qui la passionne. Après un voyage en Italie, Émilie se dit qu'il est temps d'agir, qu'elle n'a rien à perdre. Organiser des voyages, c'est ce qu'elle fait déjà pour sa famille, alors pourquoi pas le faire pour d'autres ? Tout s'enchaîne rapidement. En quelques jours, elle s'enregistre comme auto-entrepreneur, crée son identité visuelle et ouvre un compte sur les réseaux sociaux. En septembre 2023, Lily's Travels est née. Mais attention, elle ne se lance pas tête baissée. Avant de faire le grand saut, Émilie se renseigne sur le métier de travel planner, encore peu connu en France. Alors d'ailleurs, petite parenthèse pour les non-bilingues, travel planner signifie organisateur de voyage. Et là, je sens que tout s'éclaire. Elle prend le temps de discuter avec des professionnels pour s'assurer que c'est un choix viable. Et par sécurité, choisit de garder son emploi d'acheteuse tout en lançant son activité. Mais rapidement, la demande explose. En mars 2024, galvanisée par le succès, Émilie prend la grande décision de démissionner et de se consacrer entièrement à l'organisation de voyages sur mesure. Un choix qui lui permet de vivre de sa passion, d'avoir plus de temps pour sa famille et d'être complètement épanouie. Son petit conseil pour celles qui souhaitent se lancer ? S'entourer des bonnes personnes et être en phase avec son entourage. Parce que créer sa boîte, finalement, c'est comme partir en road trip. Mieux vaut être bien accompagné. Vous pouvez retrouver Émilie, ses offres et tous ses conseils voyage sur son site internet www.lilystravels.com ainsi que sur son compte Instagram lilys-travels. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Les indépendantes angevines à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G.
Topette sur Radio G.
Et ce soir, on s'intéresse toujours au défi 24 heures Angers Téléthon avec toi, Nolwenn, et tes deux invités, Myriam de Kepper et Eric Biansotti.
Exactement.
Biansotto, pardon.
Juste avant, on parlait des dons qui servent entre autres à guérir et à trouver des traitements concernant ces maladies génétiques rares qui sont souvent très invalidantes. Quelles sont les principales maladies rares dont on s'occupe aujourd'hui avec l'AFM, Myriam ?
Alors, je suis pas spécialiste, mais moi je suis particulièrement sensible à la myopathie, surtout à la myopathie infantile, et puis l'amyotrophie spinale dont je parlais tout à l'heure, parce que ça concerne des enfants, donc c'est quelque chose qui est pas du tout acceptable, qui est un peu la priorité un peu hein, dans les recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements qui sont trouvés, les diagnostics et les traitements qui sont trouvés concernent aussi maintenant des cancers. On a des maladies de la vue aussi qui sont traitées, du cœur. Donc en fait, la recherche en cherchant des maladies trouve des tas de nouvelles possibilités pour guérir d'autres maladies qui s'étendent au-delà des maladies génétiques.
Oui, finalement, ça permet de guérir plein d'autres maladies.
Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est allé en équipe Défi 24 visiter les locaux, les laboratoires qui se trouvent à Évry, qui sont financés par l'AFM Téléthon. Et ce qu'il y a de très intéressant là-bas, c'est que les chercheurs sont pas du tout déconnectés du terrain. C'est pas des, on imagine un chercheur en blouse blanche, une cinquantaine d'années avec des grosses lunettes, mais c'est pas du tout ça. Ce sont des jeunes. Ils ont tous leurs petits ambassadeurs pour lesquels ils travaillent. C'est des petits enfants qui attendent des traitements et qui reçoivent parfois des essais cliniques. Et ils ont des photos d'eux partout dans les labos. C'est très humain en fait la façon dont c'est traité, quoi.
Et justement, en parlant des laboratoires du Téléthon, je ne sais pas si c'est du Généthon dont vous
oui,
parliez.
Oui, voilà, je parlais du Généthon.
Et qu'est-ce qu'on y fait au sein de ce laboratoire, justement ?
Alors, il y a toute la phase de dépistage, où il y a un dépistage des maladies. Donc, on en trouve encore aujourd'hui. Hein. Comme je disais, 8 à 10 000, c'est approximatif. Donc, il y a beaucoup de travail. Et puis après, il y a la mise en place des essais cliniques dans un autre partie des laboratoires. Et enfin, quand l'essai clinique est concluant, il y a une autre partie qui va se charger d'industrialiser le traitement, en fait, de rendre ce traitement accessible sur le marché.
Et maintenant, du coup, depuis en 2000, les chercheurs, ils ont annoncé des premiers résultats positifs concernant la thérapie génique chez les bébés bulles dont le système immunitaire n'existait pas. Comment est-ce que ça fonctionne ?
En fait, la thérapie génique, ça va être ce qui va être intéressant, c'est qu'on va trouver la solution. Comment guérir les cellules, c'est en injectant un gène sain qui va aller guérir la cellule. Et ce qui était compliqué pour la recherche, c'est comment on introduit ce gène sain. Quel est le vecteur pour transporter ce gène dans la cellule qui va pouvoir le guérir. Et en fait, ils ont trouvé le système du vaccin. On va coloniser les cellules en fait par un vaccin qui va contenir les bons gènes, qui vont ensuite guérir les cellules. Et comme je disais tout à l'heure, le processus s'inverse. Par exemple, pour des enfants de moins de 2 ans qui n'arrivaient pas à marcher, on voit des résultats très très vite après l'injection. Il suffit d'une seule injection pour inverser le processus.
Et du coup, on voit que c'est grâce aux dons qui sont faits au Téléthon que plein d'enfants peuvent être sauvés comme ça. Du coup, si on revient un petit peu au défi 24 heures et qu'on parle plus précisément des dons, Eric, il y a 66% de déduction d'impôts sur les dons, c'est
ça ? Tout à fait. Ce qui fait qu'un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros après remboursement sur votre crédit d'impôt. Donc ça permet de donner un petit peu plus sans se démunir, il faut y penser. C'est aussi une déduction de 60% pour les entreprises. Et elles sont de plus en plus nombreuses à nous aider, soit par un don forfaitaire, soit en sponsorisant les kilomètres de leurs employés.
J'ai une petite question sur la déduction d'impôts. Pour préciser, ça se fait automatiquement ou alors c'est vraiment au moment de la déclaration qu'il faut, pour celles et ceux qui seraient un petit peu inquiets par rapport à leur déclaration?
Alors, à partir du moment où vous avez, par exemple, laissé un chèque à la FM Téléthon, vous recevez systématiquement, à partir du moment où on a votre nom et votre adresse, un formulaire d'attestation de don, et il suffit de le reporter sur votre déclaration d'impôt. Ensuite, vous savez qu'en début d'année, l'État vous reverse automatiquement ce qu'il estime qu'il devra vous devoir une fois vos impôts calculés.
Et pour parler plutôt du parrain maintenant du défi 24 heures, qui est-ce, Eric ?
Alors, c'est Julien Guinebrotière. C'est un jeune homme qui est sportif, qui est solidaire, parce qu'il est lui aussi atteint d'une maladie rare. Alors, ne me demandez plus le nom de cette maladie, je l'ai déjà oublié. Mais en gros, il lui manque le collagène qui sert à coller toutes les couches de peau les unes sur les autres. Ce qui fait qu'au moindre choc, il a la peau qui cloque, qui se décolle. Et il reçoit des douleurs très vives, exactement comme s'il avait des brûlures au 3e degré.
Ok, donc il participera aussi au défi 24 heures, j'imagine. Il sera présent.
C'est notre parrain, il sera présent. Et peut-être qu'il essayera de faire les 24 heures en marchant et courant.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces présentations de l'événement que nous on connaît. Hein, si vous êtes des fidèles auditeurs auditrices de l'émission de Topette de Radio G, bien évidemment, j'imagine qu'on n'est jamais à court de nouvelles personnes qui viennent participer, qui découvrent l'événement, même si c'est un des plus importants du département. C'est toujours bon de le rappeler parce qu'il faut battre ce record de 40 000 km à faire cette année. Puis comme contrairement à ce que je disais, Myriam, le nombre d'argent récolté c'est 39 400 en 2023. Donc on espère aussi peut-être
passer les 40 000.
Voilà, passer les 48 à quasiment 1 euro par kilomètre, ce serait l'idéal. On fait un petit détour par l'édito impro avec toi Charles et puis on revient tous ensemble dans Topette pour conclure notre émission.
Salut Pierre Benoît, salut les copains, salut les improvisangevins. Ça y est, c'est terminé. Dimanche, il y a 2 semaines, la Coupe du Monde d'improvisation a été décernée après 1 semaine de tournoi. Des 6 pays représentés, c'est finalement, roulement de tambour, le Québec qui repart avec la musique, avec le précieux titre de champion du monde.
Les meilleurs, tu dois être vachement content quand même, Charles.
Ben, content, oui, non, ben oui, un peu quand même. Mais j'avoue, je suis surtout déçu d'avoir raté ce festival-là. Dans un cadre de mondial, ça aurait été chouette que les rencontres soient diffusées sur des plateformes genre Twitch ou YouTube. Ça aurait permis à la communauté et aux familles de voir les artistes qui vont performer. Je dis ça, c'est vraiment pour chipoter. Hein. En vrai, l'impro en vidéo, c'est difficile à mettre en place et ça n'a pas un super rendu. Et c'est pour ça, Pierre Benoît et tout le monde autour de la table, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un petit coup d'œil derrière le rideau en ayant au bout du fil le numéro 4 de l'équipe de France, mesdames et messieurs, le Normand de Caen, Félix Philippard. Salut Félix, comment ça va mon gars?
Salut Charles, tu vas bien?
Oui, ça va. Et comment... Ça fait 1 semaine, comment tu te remets de ton tournoi? Ça va?
Ouais, ça va. On commence à se remettre physiquement en termes de fatigue. Ça a été un peu prenant parce que c'était un rythme assez soutenu. Mais on s'en remet. On avait toutes et tous prévu quelques jours un peu pour atterrir tranquillement au retour. Donc non, ça y est, on s'en remet.
Bah oui, mais c'est vrai que c'est intense hein, parce que c'était 7 jours de tournoi. Vous avez pas joué à tous les soirs, mais j'imagine que vous êtes allé voir les autres.
Ouais, en fait, c'était effectivement 7 jours de tournoi. Il y avait des matchs avec un seul match dans la journée. Il y avait des jours avec 2 matchs par jour. Donc c'était assez rythmé, puis il y avait les qualifs au début, après il y a eu les demi-finales, et puis après il y a eu la finale. Nous, on a été jusqu'en demi-finale, on a été éliminé par le Québec en demi-finale. Mais effectivement, les jours où on jouait pas, on allait voir les matchs des autres équipes, parce que d'abord on avait envie, et puis...
C'est des copains au final.
Ben oui, pour soutenir aussi les autres équipes, pour remercier la production qui avait organisé cette Coupe du Monde, c'était aussi très bien qu'on y soit. Peut-être en plus, il y avait dans le travail, tous les jours qu'on faisait, des petits temps de débrief entre nous.
C'est la partie que le public, les spectacles, le public, il voit ça, mais il voit pas tout ce qui est filage, organisation, débrief d'avant, d'après-match, etc. Et justement, donne-nous un coup d'œil derrière le rideau. Comment c'était? Est-ce que c'était une grosse fête de l'improvisation? Est-ce que c'était vraiment compétition? Comment c'était la relation entre les autres équipes?
Ouais, la relation entre les autres équipes, elle est très bonne, franchement. C'est un moment de grande fête parce que, sans révéler des grosses coulisses, la production belge qui avait organisé cette Coupe du Monde avait réservé le même hôtel pour toutes les équipes. Donc, on était 6 équipes d'improvisateurs et d'improvisatrices dans le même hôtel.
C'était une grosse colo, en fait.
Ouais, c'était vraiment une grosse colo. On échangeait beaucoup entre nous. On était contents de se retrouver. Même les équipes qui ont été éliminées au qualif, c'est-à-dire la Suisse et le Luxembourg, sont restées jusqu'à la finale, vivent cette coupe avec tout le monde. Donc c'était très festif, très fédérateur, très joyeux. Évidemment que c'est une Coupe du Monde. Il y avait une petite compétition. C'est vrai, factuellement. Mais une fois qu'on est éliminé, on est éliminé, c'est pas grave. Il n'y a jamais eu de coup de pute dans les couloirs pour tenter d'éliminer un joueur ou une joueuse en loose day.
Mettre du café caché, oui, je vois bien.
Ouais. Non, c'était plus des discussions, c'était plus... on comptait les points au tableau pour savoir quelle équipe...
Ah, quand même. Donc, il y avait quand même le truc de compétition, d'essayer de suivre, de voir qui est-ce qui passait, etc. Il y avait ce truc-là, quand même.
Bah évidemment, c'est une Coupe du Monde. Si on n'est pas d'accord pour respecter cet esprit-là, faut pas faire une Coupe du Monde. Faut faire du match sans tournoi ou pas faire de match. Mais par contre, c'était pas un esprit compétiteur malsain, si tu veux. C'était vraiment un côté joueur. On a renoué avec un côté de jeu pur. On est content de faire une partie dans ce sens-là. Mais au moment où la partie s'arrête, la partie s'arrête, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu tout ça. On était contents de vivre ça. Moi, en plus, c'était ma première Coupe du Monde, donc je découvrais ça. Et c'est une émulation, en fait. C'est une vraie émulation, ce qui se passe à ce moment-là. Ça discute, ça fourmille, t'échanges de plein de choses. Donc, non, c'était très riche. Et vraiment, pas de coup bas. Moi, j'ai été malade la veille de la demi-finale. sincèrement, les Québécois eux-mêmes sont venus me voir en me disant que promis, c'était pas eux.
Donc, c'est drôle que tu dises que toi, c'était ton premier mondial, parce que justement, t'étais entouré de joueurs et de joueuses de renom. Je veux pas citer des noms parce que de toute façon, les gens qui ont suivi le savent, mais il y avait quand même l'équipe de la LNI du Québec qui est la compagnie qui a inventé il y a près de 50 ans le concept de match d'impro. Ouais. Donc ça veut dire que déjà là, on a un maillot qui est hyper impressionnant. Comment toi tu fais pour pas craquer? Surtout, je viens d'apprendre que tu étais malade. Comment tu fais pour pas craquer dans cette pression-là? Des grosses salles, des grosses équipes, des gros joueurs. Je tiens juste à dire à tous les auditeurs que le gars à qui on est en train de parler a dû se faire une improvisation solo 3 minutes en rimé. Juste à dire ça, j'entends les improvisateurs et improvisatrices qui nous écoutent en train de pousser un gros soupir. Comment tu fais pour garder le focus là-dedans?
Alors, si je peux, en plus, c'est pas modeste, mais si je peux rajouter une précision, j'ai pas dû faire une improvisation solo en rimé. C'était une comparée et elle était libre. Et sur le banc, Igor Potoksny me dit « Ah bah vas-y, fais une impro en alexandrin en solo. » Et là, c'était aussi stratégique. C'était dans l'optique d'aller mettre un point à ce moment-là. Mais c'était une impro libre, donc c'était un choix de notre part. Et comment on fait pour pas craquer ça? honnêtement, avant la Coupe du Monde, tu penses beaucoup, tu te mets la pression, tu réfléchis aux noms que tu vas rencontrer, aux gens avec qui... moi, c'est des gens, pour la plupart, je les ai regardés jouer, tu vois, soit sur des captations de matchs, soit je les ai vus en match, et c'est des gens qui m'ont inspiré. Là, je me retrouve avec eux dans la patinoire. En plus, tu as cité les équipes, mais il y avait quand même en arbitre Yvan Ponton.
Ben oui, Yvan Ponton, c'est ça, qui est le premier arbitre de l'histoire du match d'improvisation. C'est lui, le type de l'arbitre méchant, c'est lui qui l'a mis en place.
Oui, ouais. Et il était en retraite, il arbitrait plus de matchs d'impro depuis plus de 10 ans, presque 15, je crois même. Et là, il est revenu pour cette Coupe du Monde-là. On a fêté ses 79 ans pendant la Coupe. Et on savait qu'il allait nous arbitrer, ça aussi c'était une pression. Ouais, mais curieusement, la pression, elle vient en amont. En fait, il se passe la même chose que pendant un spectacle. C'est-à-dire que t'as le stress avant, mais une fois que tu y es, ça va. Parce que, en tout cas, très personnellement, peut-être que le ressenti serait pas partagé par tout le monde, mais moi, de mon côté, j'ai eu la pression avant de me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas », etc.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais une fois que j'y étais, j'ai vraiment eu ce plaisir de maintenant, je suis là, faut s'amuser, faut se faire plaisir. Personne va venir me déloger, ni de cette équipe, ni de cette coupe. J'y suis. Donc, autant se faire plaisir. Et j'ai renoué avec vraiment ce côté, ce côté vraiment plaisir de faire une bonne partie, plaisir de jouer.
Tout le monde, ça, c'est la phrase que vous devez garder en tête. Qu'importe le tournoi, qu'importe le match, qu'importe le spectacle que vous avez, gardez un plaisir à jouer. Ouais. Merci beaucoup Félix. On a très peu de temps, mais c'est très gentil d'avoir pris le temps pour nous. La 10e Coupe du Monde d'improvisation, ben c'est fini. Un grand merci à la compagnie belge La Ligue d'Impro, tu l'as dit tout à l'heure Félix, merci beaucoup pour l'organisation. Vous pouvez les suivre sur les réseaux et bien sûr évidemment les improvisateurs et improvisatrices français, on suit l'équipe de France sur les réseaux. Merci beaucoup tout le monde.
Et ben voilà, pile poil dans le timing, on avait plus de musique derrière, sinon ça c'est impro. Voilà, je tente un truc avec
oui,
Charles,
c'est tout impro. Oui, c'est très bien, c'est
super
bien.
Intéressant en tout cas d'avoir le ressenti à chaud de Félix. On était dans les coulisses, on a vécu la pression, parce que on prend beaucoup de plaisir dans le public, mais là on oublie qu'il y en a qui sont, même si on maîtrise le sujet, on peut avoir les pétoches.
Non mais c'est ça. Non mais voilà, c'est qu'en fait là-dessus il y a deux choses, c'est que on voit que on a les pétoches. Comme tu dis, avant le spectacle, avant d'y aller, mais qu'une fois que le rideau se lève, eh ben on a un boulot à faire et que c'est là qu'on garde notre focus et qu'on profite les gens. On profite du moment présent et on profite du spectacle. Et surtout, quand on parle d'improvisation professionnelle, quand on entend Félix Philippard qui sort une improvisation en alexandrin solo 3 minutes, ben excusez les gars, mais ça en improvisation professionnelle, c'est tracer une ligne et dire ben nous on est capable de faire ça. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Ça, la différence entre loisir et professionnel, c'est une grosse question. On n'a pas le temps d'aborder ça. Mais juste une improvisation comme ça, je pense que ça trace la ligne.
Dans les deux cas, on semble avoir faut du plaisir et l'envie de jouer dans tous les cas.
C'est la clé.
Bon, prochain édito, certainement. Est-ce qu'on a des actus, Charles, avant de passer à autre chose?
Oui, bien sûr. Donc, on ouvre la balle cette semaine avec les Folies Angevines, vendredi à 19h30, qui vont proposer un match d'impro. C'est dans les premières fois où les Folies Angevines se lancent dans le match d'impro. Merci, c'est une super idée de se lancer là-dedans. Ça permet la rencontre. Ensuite, il y a la Lima qui va proposer jeudi 14 novembre, donc la semaine d'après, à 19h, à l'espace Monde Pastille, Giffard, le cabaret Cocktail. Et un match contre les malades de l'imaginaire qui viennent de Paris samedi le 16 novembre à la MPT Mon Plaisir à 20h.
Topette sur Radio G.
Eh bien, merci beaucoup Charles pour cet édito. On se retrouve effectivement dans 2 semaines pour un nouvel édito impro avec toi. On va conclure notre émission de la soirée avec notre sujet de ce soir, le défi 24 heures Angers Téléthon. Avant tout ça, j'aimerais une petite réaction d'Emilien. On t'a pas trop entendu, je t'ai beaucoup vu acquiescer aux propos de Myriam et d'Eric. Le Téléthon, globalement, tu connaissais ou pas, toi?
Alors oui, je connaissais le Téléthon. Je le faisais quand j'étais dans ma douce bandée avec l'école. En fait, on devait courir aussi, nous, autour. Donc là, c'était plus réduit quand même, mais d'un terrain de sport. Mais c'est une... Comment je dirais? C'est un événement fondamental et auquel, je pense, le plus grand nombre devrait participer. Et j'étais, je pense même... pour pouvoir faire un petit tour d'ici vendredi ou samedi, parce que ça me fera du bien aussi de me remettre au sport, un peu comme toi Pierre-Benoît, et parce que c'est pour une très bonne cause.
Ah, il dévoile les informations en antenne, ça m'a été dit à l'antenne, effectivement. On peut marcher, hein, rassurez-vous, on peut marcher, on peut même... tout sauf vélo, hein, je crois, Myriam.
Non, il faut que ce soit à pied, hein, que ce soit en marchant ou en courant, ça reste à... De toute façon, les vélos ne sont pas autorisés sur le parcours, hein, quoi qu'il arrive.
Mais on peut venir en poussette si on a des enfants, par exemple. C'est totalement autorisé, il faut peut-être des roues adaptées, mais en tout cas, c'est possible.
Oui, voilà.
Bon, pour les infos pratiques, en tout cas, concernant le défi 24 heures en GT Téléthon, il n'est pas trop tard pour s'inscrire, il ne sera jamais trop tard pour s'inscrire. C'est le moment de faire des dons, bien évidemment, mais Eric, on le rappelait tout à l'heure, hors antenne, là encore, on peut faire des dons à tout instant. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les infos pratiques là, avant le 29 et 30 novembre prochain?
Alors, pour vous inscrire, comme pour faire les dons, il vous suffit d'aller sur le site défi24heures.fr. Vous verrez que c'est très facile, il suffit de suivre les pavés et puis vous pouvez donner de l'argent avant, pendant ou après l'événement, il n'y a pas de date limite. Vous pouvez vous préinscrire maintenant, ça facilitera les choses le jour de votre arrivée, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours venir le jour J et puis vous présenter à la tente d'inscription, on vous prendra avec grand plaisir.
Myriam, quel mot tu pourrais prodiguer d'encouragement à des personnes qui seraient... Wow, j'aimerais bien y participer, mais en même temps, le brouillard, parce que l'écharpe, c'est un bon argument peut-être.
Il y a beaucoup de chaleur sur le village du défi 24 heures, il y a beaucoup d'animation, c'est très festif, c'est populaire, on espère fédérer un maximum de personnes, donc l'idée c'est justement de venir se changer les idées à cette occasion.
Melouane ?
Moi j'ai une petite question, est-ce qu'on peut venir avec notre chien, attaché bien sûr ?
Oui, tout à fait.
Bah, c'est parfait, c'est bon, je sais avec qui je viendrai.
Même les chats, si votre chat accepte la laisse ?
Ça
c'est possible. Merci à Pascal, je vous en profite, c'est le président du coup du défi 24 heures en GT Téléthon avec qui on a ce partenariat. Nous on va en parler tous les jours quasiment maintenant dans l'émission pour vous encourager à y aller. Et puis que dire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Eric, Myriam, avant de se quitter quand même?
Alors n'oubliez pas que vous pouvez venir en tram, c'est très facile, c'est l'arrêt Farcy. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir à pied depuis le centre-ville et vous comptabilisez les kilomètres que vous avez fait en plus.
Et ben voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Ah si, quand même, important de préciser, on peut le faire à distance, on n'en a pas du tout à parler, Myriam.
Non, c'est vrai, si on ne peut pas se déplacer, si on n'est pas disponible ce jour-là, on peut le faire à distance et on comptabilise, on marque sur le site internet, on marque nos kilomètres. En fait.
Et d'ailleurs, étonnamment, il y a eu un avant après Covid, j'ai l'impression, là où tout a été fait en distanciel, ça a fidélisé presque.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà, c'est là le record du chiffre que j'ai donné tout à l'heure de 38 000 et des poussières. Et ben, plein d'encouragement, bon
merci
courage pour
beaucoup.
Les derniers préparatifs. On vous souhaite plein de les meilleurs sentiments, comme on dit. Nous, demain, on sera en best-of avec toi, Nolwenn. On va revenir sur les meilleurs moments de Topette depuis le début de saison. Et jeudi, on va parler des JNP, les Journées Nationales des Prisonniers, avec les associations qui organisent ça à Angers. Prenez soin de vous. À demain.
Merci pour votre accueil.
Et Topette, merci Eric, merci Myriam.
Personne qui touche la terre, t'en vas pas mon règne, dur à l'air au sol, l'heure n'a pas bon maître, l'être que perdent les âmes qui font le rêve, les autres perdent un magot, je prendrai tout ce qui reste et j'en ferai un tableau. Et j'ai le sourire aux lèvres, le ventre adore la guerre, mais mon cœur je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre est pas.